Réplique, regard croisé sur l'Amérique et sur la France avec Pascal Bruckner et James McCauley. James McCauley est correspondant à Paris du très prestigieux quotidien américain, le Washington Post. Pascal Bruckner, romancier et essayiste qu'il est inutile de présenter, publie aux éditions Grasset un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. Le premier, francophile assumé, s'inquiète de l'évolution actuelle de la France. Le second, qui adore l'Amérique, se demande, dès le début de son livre, si les États-Unis ne sont pas en train de répandre dans le monde le délire du politiquement correct, c'est-à-dire notamment l'obsession raciale, le cauchemar identitaire, la guerre des sexes en guise de féminisme. Nous allons aujourd'hui confronter ces regards, tâcher d'évaluer la pertinence de ces inquiétudes. Commençons par vous, James McCauley. Vous écrivez dans un article publié par Le Monde, le 12 décembre 2020, que vous avez peur pour l'avenir de l'universalisme français. Qu'est-ce qui motive cette appréhension, James McCauley?
Bon, mais merci Alain pour l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Quand j'ai dit que j'avais peur pour l'avenir de l'universalisme français, j'ai parlé comme quelqu'un qui aime la France depuis toujours, et dont les études en histoire se concentrent sur la France de la fin du 19e siècle jusqu'à l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, je dois dire. Et ce qui me frappe, c'est qu'on voit aujourd'hui un durcissement des convictions en France, qui est tout à fait compréhensible après le traumatisme de ces récents attentats islamistes, bien sûr. Mais ce durcissement, en même temps, risque de mettre en péril le véritable esprit de l'universalisme français, qui est une belle aspiration et l'envie du monde, même aux États-Unis, du moins à gauche américaine. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une défense de l'universalisme lancée par certains membres du gouvernement et l'élite française, qui demande tant aux minorités, plus que ne devrait l'exiger l'universalisme au début. Et ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'une défense négative ou même exclusive de l'universalisme. On n'entend parler que du voile et de la viande halal, et des visites scolaires et du séparatisme. Et l'idéal universaliste mérite tellement mieux que cela. Nous devrions entendre parler de notre objectif commun et ensemble, pas ce qui nous déchire. Et non, ce qui nous déchire n'est pas du tout, je le répète, pas du tout, la reconnaissance des identités individuelles différentes. En raison de son histoire, mais vraiment son histoire récente, je dois dire, après 1968, il y a bien sûr une hostilité au particularisme en France. Tout le monde le sait, c'est très connu. Et j'ai beaucoup de respect pour les origines de cette préoccupation. Mais en même temps, il faut dire que le particulier peut être intérieur à l'universel, mais l'universel peut toujours rester l'aspiration partagée entre nous tous. Tout simplement, le particulier est un moyen, et peut-être le seul moyen, d'accéder à l'universel. C'est ça la littérature, c'est ça l'empathie. Et de temps en temps, ce qui me manque dans le discours public en France, un pays que j'aime, où j'ai la chance de vivre, mais qui exige de plus en plus une certaine uniformité et même une conformité des esprits, et qui refuse la différence, comme si nous étions tous pareils, avec les mêmes expériences et les mêmes histoires. De toute évidence, ce n'est pas le cas et ce n'est pas un problème. L'universalisme est la somme de nos différences, non leur effacement. Une société qui nie la valeur de la différence n'est pas universelle, elle est naïve, comme le montre clairement le long et beau tableau de l'histoire de France.
Bien. Alors, Pascal Bruckner, êtes-vous d'accord avec ce diagnostic ?
Alors, s'il s'agit du diagnostic d'un francophile, je suis très touché par sa sollicitude à notre égard. Moi aussi, je suis inquiet pour la France. Mais en réalité, ce que dit James Macaulay, c'est ce que pense une bonne partie de la presse dite de gauche nord-américaine, et dans lequel je vois pour ma part deux symptômes. Le premier symptôme m'avait été exprimé par un ami du New York Times qui s'appelle Roger Cohen. En 2016, les Américains étaient persuadés que nous allions voter pour Marine Le Pen. Comme toujours, nous, les Français, éternels, collabos, nous allions choisir l'extrême droite. Pas de bol, c'est Trump qui a été élu aux États-Unis. Je crois qu'il faut, dans les attaques très violentes menées contre la France par la presse nord-américaine, tenir compte de ce narcissisme blessé. Toute une partie de la gauche américaine nous en veut de l'élection de Trump et de l'élection d'Emmanuel Macron à la place de Marine Le Pen. Et puis, dans ce souci très attendrissant de James Macaulay pour la fin de l'universalisme français, je vois aussi, pour ma part, un certain paternalisme. Et ce paternalisme, je dois dire, me fait sourire. S'il s'agissait, par exemple, d'un journaliste suisse qui s'inquiétait de l'état de la France, je comprendrais, car la Suisse est une démocratie impeccable. Concernant les États-Unis d'Amérique, je suis un peu plus sceptique, parce que moi, il y a très longtemps que je suis inquiet pour les États-Unis. Depuis au moins 1995, où j'ai publié un livre qui s'appelait « La tentation d'innocence », où je critiquais déjà les dérives du néo-féminisme à l'américaine et l'irruption du politiquement correct. Donc on a toutes les raisons de s'inquiéter pour l'état de la France, mais ce qui me frappe, et je voudrais le dire d'emblée, c'est que les Américains nous critiquent pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire pour le culte de la laïcité en France, qui me paraît être au contraire ce qu'il y a de mieux dans notre pays, et ils ne nous critiquent pas pour nos vrais défauts, qui sont innombrables, l'infantilisation des citoyens face à l'État, le recours systématique aux grèves et aux manifestations, la plainte continuelle devenue un roman national, ça, ce sont des défauts typiquement français. Et quand vous attaquez l'universalisme à la française et notre laïcité, qui est probablement ce que nous avons fait de mieux, je pense très honnêtement que vous vous trompez de cible.
Alors James Macaulay, vous répondez, puis j'essaierai d'intervenir à mon tour. James Macaulay.
J'ai pas beaucoup de choses à répondre, mais peut-être juste pour poser une question à Monsieur Bruckner, qui a attaqué l'universalisme français ou la laïcité française? Pas moi.
Non, c'est vrai, c'est pas vous, c'est votre collègue, en tout cas très clairement du New York Times, Adam Nociter, qui, avant de quitter son poste, a donné une interview au Point. Où il disait simplement « La laïcité sert de cache-sexe pour masquer les problèmes de la France. Les vrais problèmes, c'est le racisme, et notamment le racisme dans la police. » Il a ajouté aussi dans une émission sur France Culture, James Macaulay, à laquelle je crois vous participiez, que les caricatures, de Charlie Hebdo, et il a dit ça après la décapitation de Samuel Paty, lui rappelait l'exposition franco-allemande de 1940 avec des caricatures de juifs. Voilà ce qu'il a dit, ce qui est quand même la pire insulte pour les morts de Charlie, pour Charles, pour Wolinski, pour Bernard Maris, pour Cabu et les autres. Car c'est pas tout à fait la même chose que de caricaturer une religion, et la caricature de la religion catholique est beaucoup plus fréquente chez Charlie que la caricature de la religion musulmane, et caricaturer une communauté, une population qu'on exclut de l'humanité avant, juste quelques mois avant son extermination. Donc c'était quand même d'une violence inouïe, c'était sur France Culture, il a quitté son poste depuis lors, Roger Cohen, dont parlait Pascal Bruckner, le remplace, sans doute pour réparer les dégâts commis, il aura beaucoup de mal, parce que des propos pareils ruinent la crédibilité du New York Times. Mais je ne vous incrimine pas pour ce pour ce que dit ou écrit votre collègue. En revanche, James McCauley, là, je m'interroge parce que vous dites l'universalisme français n'est pas fidèle à lui-même dans la mesure où il confond religion musulmane et islamisme, isolant et stigmatisant toute une minorité religieuse de la communauté française au moment où le pays a le plus besoin d'unité nationale. Alors avant que Pascal ne réponde, je vous pose la question, James McCauley, qu'est-ce qui vous permet de dire ça, James McCauley?
On peut commencer par la parole du gouvernement dans ces derniers mois. On voit une telle confusion sur ce qui est l'islam, une foi très très belle, très ancienne et très bien installée en France depuis toujours, et ce qui est l'islamisme, qui est un truc totalement différent. Et donc quand on écoute que à la part du ministère de l'Intérieur, que les rayons halal, kasher dans les supermarchés posent un problème pour lui, quand on écoute le ministère de l'Éducation dit des choses comme qu'il faut combattre contre ce qu'il appelle l'islamo-gauchisme dans les universités françaises. Mais ça, c'est quelque chose un peu consternant, car il montre une telle confusion et il montre que pour eux, les gens qui veulent seulement pratiquer leur foi fidèlement à la République et aux valeurs de leur religion posent un problème pour la communauté nationale. Ou ça, c'est l'implication surtout. Peut-être c'était pas l'intention, mais c'était l'implication. Et c'est ça qui me concerne.
Alors Pascal Bruckner, que répondez-vous à cette critique?
Je réponds que c'est peut-être une mauvaise interprétation des paroles du gouvernement. D'abord, l'islam n'est pas en France depuis toujours. Il y est depuis 1830. Il n'est pas toujours récent, mais l'afflux d'immigrés musulmans date d'après la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que les Français ont une connaissance beaucoup plus fine de l'islam en raison de l'importance de la communauté musulmane chez nous que n'en ont les Américains, pour une raison simple, c'est notre géographie nous met en contact depuis longtemps avec différents pays musulmans, et il me semble que sur ce plan-là, nous avons probablement une vision très différente des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une méconnaissance sur la laïcité. La laïcité française, contrairement au monde anglo-saxon, protège les religions, mais elle nous protège aussi des religions. Et cela, c'est dû à l'histoire très particulière de la France, qui a dû se construire, la France moderne, contre l'Église catholique et contre les guerres de religion qui ont ravagé notre pays et une partie de l'Europe pendant 3 siècles. Et c'est contre ce danger que nos législateurs, au début du XXe siècle, ont inventé la séparation de l'Église et de l'État, qui me paraît aujourd'hui la meilleure des choses. Et vous dites, James McCauley, que nous confondons les musulmans avec l'islamisme. Alors, il me semble que ça n'est pas tout à fait vrai. Dans islamisme, il y a islam, donc il y a bien quand même un lien de causalité entre la foi ordinaire et ses dérives extrémistes. Et puis, vous me semblez victimiser les musulmans dans leur ensemble. Je voudrais vous rappeler une page du Monde qui a été publiée en décembre par un certain nombre de responsables musulmans, dont Hakim El-Karoui, dont Tarek Obrou et d'autres imams, qui s'intitulait « Heureux comme un musulman en France ». Et ce que disaient ces gens-là, tous de confession musulmane, c'est que les musulmans avaient en France un traitement, un accueil, une atmosphère qui les rendait probablement plus heureux en France qu'ils ne l'étaient dans beaucoup d'autres pays européens et dans beaucoup de pays musulmans, parce que la France offre aux croyants, musulmans, juifs, protestants, catholiques, la possibilité de vivre leur croyance, mais aussi la possibilité de l'abandonner. En d'autres termes, ce qui caractérise la France, et ça c'est probablement ce qui nous distingue des États-Unis, c'est que nous avons le droit de croire et de ne pas croire. Le président Macron l'a dit souvent, et donc c'est l'indifférence en matière religieuse, la possibilité de quitter sa foi d'origine, qui est, me semble-t-il, la marque de la laïcité à la française, ce pourquoi, dans les années 20 du XXe siècle, Kemal Atatürk a adopté et imposé de façon très autoritaire la laïcité à la française au peuple turc, laïcité que le président Erdogan est en train de démanteler. Donc il me semble que, au-delà de quelques déclarations maladroites du ministère de l'Intérieur sur la nourriture halal, effectivement, là je suis en désaccord avec lui, il ne me semble pas que les musulmans souffrent en France de discrimination. La meilleure preuve, c'est qu'ils ne quittent pas notre pays en masse, et que non seulement ils ne le quittent pas, mais ils y viennent volontiers parce que la France est effectivement accueillante, mais aussi vigilante sur les dérives extrémistes et sur le terrorisme. Et c'est ça, me semble-t-il, le génie français de la laïcité. Et je ne comprends pas pourquoi cela irrite nos amis américains. Il est vrai qu'aux États-Unis, être un athée, c'est très mal vu, parce que cela veut dire qu'on est lié par aucune appartenance. En France, l'athéisme est une possibilité offerte à tous.
Alors, je voudrais... Vous voulez répondre tout de suite, donc j'ajouterai quelque chose. Allez-y, James McCauley.
Oui, oui. Tout d'abord, Pascal, vous avez raison, bien sûr, de dire qu'il existe deux cultures vis-à-vis de la religion en France et aux États-Unis. Nous, on protège la liberté. C'est une liberté pour, et ici, c'est une liberté contre. Je comprends tout à fait. Mais ce qui compte dans cette discussion éternelle sur la laïcité, ce n'est pas la question de la culture, c'est la question du droit, comme l'ont souligné des historiens, comme notamment Patrick Veil. Et la laïcité, et il faut dire que la laïcité protège la pratique de la foi individuelle sans stigmatisation du tout, de la part du gouvernement, de la part de personne. Et donc, c'est ça ce qui est perdu de temps en temps, cette nuance-là.
Alors,
moi, ici en France.
Alors, je voudrais quand même ajouter à ce que dit Pascal Bruckner qu'en effet, les musulmans ne quittent pas la France, ils y viennent en masse, et que ceux qui quittent un certain nombre de quartiers, voire la France, aujourd'hui, ce sont les juifs. Les juifs ont disparu. Les élèves juifs, par exemple, sont quasi absents des écoles publiques de la Seine-Saint-Denis et d'autres régions de France, précisément à cause du nouvel antisémitisme dont ils sont l'objet. Je voudrais aussi ajouter quelque chose qui est très important, parce que James McCauley, vous faites une différence absolue, en effet, entre l'islam et l'islamisme. Ça n'a aucun rapport. Mais vous êtes démenti par un certain nombre d'intellectuels musulmans, Kamel Daoud, Boualem Sansal, Mohamed Kassimi, et aussi, et je vais le citer lui, Abdennour Bidar, qui écrit notamment ceci. On dit d'un tel fanatisme de quelques-uns que c'est l'arbre qui cache la forêt d'un islam pacifique. Mais quel est l'état réel de la forêt dans laquelle un tel arbre peut prendre racine? Il pose cette question, et je crois qu'il faut la poser avec lui. Sinon, l'aptitude à se mettre soi-même en question, précisément, restera l'apanage de la culture occidentale, de la culture européenne. Et ça ne devrait pas être le cas. Et quand des intellectuels musulmans se lancent eux-mêmes dans une telle entreprise, je crois qu'il est très important de les aider au lieu de bâtir cette muraille infranchissable entre l'islam et l'islamisme. Certes, tous les musulmans ne sont pas des intégristes, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais il ne faut pas nier la réalité des problèmes. Il ne faut pas nier que, par exemple, plus de 2/3 des lycéens musulmans déclarent de nos jours préférer obéir à la loi religieuse plutôt qu'à la loi civile. Il ne faut pallier les difficultés qu'ont les professeurs aujourd'hui à faire cours, comme le montre Jean-Pierre Aubin, notamment l'inspecteur de l'éducation nationale, faire cours sur Voltaire, sur Rousseau, voire sur Flaubert, montrer des édifices religieux qui ne soient pas musulmans, etc., etc. Cette réalité existe, elle est de plus en plus inquiétante, c'est ce que Gilles Kepel appelle la fracture française, et je m'étonne qu'un correspondant américain en France n'en ait pas pris la mesure, parce que les livres coordonnés par Georges Bensoussan, Les territoires perdus de la République et une France soumise, eh bien, existent, parce que le rapport Aubin existe, comme son livre Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école, parce que il y a aussi les travaux de Bernard Rougier, etc., etc. Alors, pourquoi, vous qui êtes là, précisément, James McAulay, ne voulez-vous pas en tenir compte?
Donc, je vais commencer par dire que j'ai cité bien le livre de Bensoussan dans beaucoup de reportages ces derniers mois. C'est juste un petit truc. Mais je vais commencer au début. Il y a clairement un problème avec l'antisémitisme en France. Et je dis ça en tant que juif, moi-même. Je le nie pas du tout. Et moi, j'appartiens à une synagogue ici à Paris et je comprends bien sûr le dispositif de sécurité. Et c'est terrible, terrible. Mais encore une fois, je comprends bien aussi le traumatisme de ces attaques islamistes de ces dernières années. Je l'ai vécu comme vous. Je m'installais en France il y a 5 ans, et donc c'était le Bataclan et tout ce qui est Bataclan, Bruxelles, Nice, et la liste continue. Mais je ne pense vraiment pas que la religion musulmane est la raison ou l'explication pour ces attaques. Il y a un problème avec l'islamisme en France, bien sûr, tout le monde le sait, mais la population des musulmans en France est presque 6 millions de personnes, à peu près, selon les chiffres, presque 10% du pays. C'est une population énorme et diverse et tout à fait fidèle aux valeurs de la République. Et donc, je pense que c'est comme ça, c'est pas super compliqué, au fond.
Bien. Alors, écoutez, nous allons nous arrêter d'explorer cette question des éventuelles dérives de l'universalisme français. Les positions ont été clairement formulées d'un côté et de l'autre. Pascal Bruckner, je voudrais vous demander pourquoi vous êtes à ce point préoccupé par l'Amérique, parce que personne ne peut vous suspecter d'anti-américanisme. Et je suis témoin même, un des premiers témoins de votre amour de l'Amérique. J'enseignais comme visiting assistant professeur à Berkeley dans mes jeunes années, entre 76 et 78. Je vous ai invité, vous avez passé 3 mois à Berkeley, et à cette époque, et vous étiez très heureux. Vous découvriez la Californie un peu en même temps que moi. Vous avez continué d'ailleurs à enseigner aux États-Unis, et peut-être le faites-vous encore, ou à donner des conférences. Vous aimez ce pays énormément. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui, pour vous, ne va pas aujourd'hui aux États-Unis? Pascal Bruckner.
Alors, effectivement, j'aime toujours l'Amérique, même si, comme James McAulay pour la France, je m'inquiète énormément pour elle. J'ai de la famille américaine, car entre-temps, effectivement, j'ai vécu avec une franco-américaine et ma fille est américaine et j'ai là-bas beaucoup de parenté. Mais quelque chose a changé, et non seulement dans la droite américaine qui a donné Trumpisme, mais à gauche. Et cette inquiétude que je partage pour les États-Unis, je ne suis pas le seul à la partager. Pardon. Beaucoup d'amis américains sont également inquiets de ce qui se passe et ont le sentiment que leur pays s'engage dans une double voie, qui est une double impasse. D'un côté, le Trumpisme, dont on a vu tout récemment les excès, et de l'autre côté, ce qu'on appelle la cancel culture, le politiquement correct, le wokeism. Pardon. Alors, c'est un mot qui veut dire les éveillés de la justice sociale et raciale et qui ressemble pour moi à une sorte de religion dégradée et qui prononce des arrêts irrémédiables contre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Et aussi bien à gauche qu'à droite, on a le sentiment que l'Amérique est prise en tenaille entre deux extrémismes qui sont invivables, en tout cas qui sont invivables pour nous. Alors lorsque les journaux, certains journaux de la côte Est font la leçon à la France, j'ai l'impression d'un paralytique qui voudrait redresser un aveugle. C'est-à-dire que oui, la démocratie américaine me paraît extrêmement malade et je ne comprends pas pourquoi la gauche, là-bas, au lieu de rester fidèle à l'esprit d'égalité et de justice, s'engage dans une sorte de dérive racialiste qui ne peut aboutir, à mon avis, qu'à une impasse qui, en tout cas, est absolument invivable. Mais l'Amérique profite de son monopole culturel et linguistique pour imposer ses vues au reste du monde. Mmh. Et j'ai l'impression que les journaux se conduisent un peu comme des redresseurs de tort, c'est-à-dire que notre tort à nous, Français, c'est de ne pas adopter immédiatement des manières d'être des États-Unis. Et je dois dire que sur ce plan-là, les Gaulois réfractaires ne sont probablement pas prêts à se laisser coloniser.
Oui, enfin, ça, nous verrons, parce que d'un autre côté, le politiquement correct américain pénètre aujourd'hui l'université française. Vous avez balayé d'un revers de main l'idée même de l'islamo-gauchisme, James McCauley. N'y revenons pas, mais je voudrais donner un exemple de ce que Pascal Bruckner appelle le politiquement correct, pour voir ce que vous en pensez, vous, James McCauley. Pascal Bruckner écrit ceci dans son livre « Un coupable presque parfait ». Au début de l'année 2020, à l'université de Yale, par la voix de Tim Barringer, directeur du département d'histoire de l'art, décide de ne plus enseigner cette histoire qu'à partir des questions de genre, de classe et de race, et d'aborder son implication au capitalisme occidental ou son rapport avec le changement climatique. Barringer justifie cette décision par le malaise de nombreux étudiants face à un canon idéalisé, produit d'artistes blancs, européens, hétérosexuels et masculins. On sait, c'était la critique des Dwems, Dead White European Males est assez ancienne, mais aujourd'hui... Qu'est-ce qui se passe?
Oui, non, continuez.
L'arrêt de critique des Dwems, je le répète, est assez ancienne, mais là, on a ajouté les trigger warnings, c'est-à-dire des signaux d'avertissement quand on aborde des œuvres qui pourraient offenser tel ou tel membre d'une communauté, d'une minorité. Reconnaissez-vous l'existence du phénomène, James McCauley, et vous inquiète-t-il? Et comme ça, vous me ferez comprendre votre éclat de rire.
Donc, je dois dire que je trouve étrange et même un peu scandaleux que ce soit le sujet de notre discussion aujourd'hui. Nous sommes à 3 jours d'une tentative de coup d'État contre le gouvernement américain encouragée par le président lui-même. Notre Assemblée nationale a été envahie, et je le répète, envahie. C'était une véritable tentative de renverser l'élection et de renverser la volonté du peuple. 5 personnes ont été tuées. 5 personnes. Et à Paris, on parle de cancel culture à gauche américaine. Nous sommes vraiment intéressés par ce qui se passe à l'intérieur du New York Times et sur les campus universitaires. Franchement,
Je ne comprends pas ce que vous dites, James McCauley, parce que la cancel culture existe. Tout le monde a été effaré.
Monsieur Finkel, permettez-moi de finir. Franchement, je comprends pas cette obsession française. Je suis désolé, mais ça montre une ignorance profonde de ce qui se passe aux États-Unis maintenant. Comment pouvez-vous regarder ce qui se passe aux États-Unis maintenant et y voir le problème, surtout en ce moment? Si la cancel culture vous intéresse, il faut commencer par le Parti républicain et les partisans de Donald Trump qui ont littéralement essayé d'annuler l'élection, notre rite démocratique le plus sacré. C'est ça la cancel culture.
Ah oui, et donc le reste n'existe pas. Et pour vous aussi, le fait que à la tribune du Congrès américain, Emmanuel Cleaver, représentant du Missouri et pasteur méthodiste, chargé de prononcer le serment inaugural de la nouvelle Chambre de représentants, a terminé par ces mots « Amen and a woman ». Amen, ça veut dire ainsi soit-il, et amen et a woman, on comprend ce que ça signifie. Vous trouvez ça purement folklorique, et du fait de la nocivité de Trump, ce qui est une autre folie devient pour vous totalement raisonnable, si j'ai bien compris, James McCauley.
Non, pas du tout. Je suis d'accord qu'il y a des excès à gauche, personne ne pourrait dire le contraire, mais cela me rappelle un peu de ceux qui disent que l'ensemble des Lumières, de l'époque de Lumière, doit être discrédité à cause de la terreur et des autres horreurs après. Ce que nous voyons aux États-Unis aujourd'hui, à gauche, sur les campus universitaires, dans les médias, c'est une réponse à un problème légitime par des moyens de temps en temps illégitimes, ce qu'on appelle le « public shaming », je sais pas comment on dit ça en français, et tout le reste. Mais pour résoudre ce problème, et c'est un problème, je suis d'accord avec vous, mais il faut reconnaître qu'il y a un problème en tant que de ces préoccupations sont légitimes. Il faut commencer là. Nous vivons dans un moment où il y a une véritable présidente nationaliste blanche à la Maison Blanche. C'est vrai. Et il faut le dire. Qui a refusé de respecter l'élection et dont les partisans ont envahi l'Assemblée nationale. Et je répète encore une fois, ils ont envahi l'Assemblée nationale pour essayer de renverser l'élection, pour garder le pouvoir. Et vous me dites que vous êtes tous inquiets des excès à gauche. C'est ça ce que je comprends pas. La seule question de l'identitarisme qui me fait vraiment peur maintenant aux États-Unis est la suprématie blanche et le terrorisme blanc. C'est ce qui tue aux États-Unis ces jours-là.
Pascal Bruckner.
Je comprends l'embarras de James McCauley face à nos inquiétudes. Mais enfin, quand même, il me semble que malgré la tentative de putsch avortée et un peu tragicomique d'avant-hier ou d'il y a trois jours, c'est Joe Biden qui a été élu et donc la gauche, enfin en tout cas le Parti démocrate revient au pouvoir. Donc il faut un peu anticiper. Trump est un, pour l'instant c'est fini, le Trumpisme continuera probablement, mais on a le droit légitime en France de s'inquiéter pour les dérives, et ce dont parlait Alain tout à l'heure est quand même très préoccupant, et il n'y a pas que ça. Je pense que le désaccord fondamental que nous avons avec les États-Unis ne porte pas simplement sur la conception de la religion, là-dessus il n'y a pas de discussion possible. C'est un fossé qui nous sépare. Nous ne pensons pas qu'une religion est respectable en soi parce qu'elle existe. Il y a des religions qui virent au fanatisme, ça c'est le premier point. Deuxième chose, la conception multiculturelle des États-Unis est quelque chose qui est difficilement audible en France puisque, si mes renseignements sont exacts, mais il est possible que je ne connaisse absolument pas l'Amérique d'aujourd'hui, aux États-Unis, vous classez les gens selon leur ethnie, leur couleur de peau, leur croyance, leur religion, leur orientation sexuelle, alors que nous, en France, nous sommes un pays universaliste. Et donc, nous pensons que chaque individu qui apparaît sur Terre, c'est une page blanche qui écrit une nouvelle histoire. Et il me semble que sur ce plan-là, la différence entre la France et les États-Unis est absolument fondamentale. Surtout quand on appartient à la gauche et que nous ne croyons pas à la fatalité des origines.
Oui, mais...
Alors que dans les nouveaux mouvements, il y a une sorte de fatalisme et l'antiracisme à l'américaine, moi je veux l'appeler un néo-racisme, c'est-à-dire l'impossibilité pour chaque personne, homme ou femme, de sortir de son lieu de naissance, de ses origines. On est noir, on est blanc, on est arabe, on est asiatique, on est gay, on est lesbienne, et il est impossible d'être autre chose que ce genre de détermination, et c'est cela qui choque énormément les Français.
Mais
James McCauley.
Oui. Donc, cette hypothèse que l'on peut parler à partir d'une position neutre est une idée, il faut dire, eurocentrique, et même phallogocentrique, pour reprendre le fameux terme de Lucie Régaré. Il est impossible de parler de nulle part. L'universalisme, c'est quand nous trouvons dans nos propres expériences respectives des choses qui se connectent à d'autres personnes. Et ici, je pense à Toni Morrison et à Philip Roth, nos grands romanciers et mes deux romanciers préférés personnellement, qui ont écrit leur propre culture et captivé les esprits d'une nation entière. Nous voyons quelque chose de nous-mêmes dans leur écriture.
James McCauley, alors vous parlez de Philip Roth,
oui, bien sûr.
Un romancier que j'aime autant que vous, que je connaissais, que j'ai beaucoup étudié. Parlons de La Tâche. Le héros de La Tâche, c'est Coleman Silk. Tout le monde croit qu'il est blanc, en fait il est noir. Et il est lui-même chassé de l'université pour racisme, ce qui est complètement absurde. Il a écrit ce livre en 2000, je crois. Ça a été un succès énorme parce que c'est un livre, effectivement, un de ses plus grands livres. Aujourd'hui, pourrait-il l'écrire? Ne serait-il pas immédiatement attaqué pour appropriation culturelle? Parce que c'est ça le déterminisme dont parlait Pascal Bruckner. Aujourd'hui, si un blanc parle de la condition noire, disons, envisage d'autres vies que la sienne, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Carrère, eh bien, il est immédiatement attaqué. C'était le cas de Catherine Bigelow quand elle a voulu filmer, et quand elle a filmé, les émeutes noires de Détroit, alors qu'elle les filmait avec beaucoup d'empathie. Donc, cette situation existe. Et je pense que Philip Roth serait mis, pour ce livre, 20 ans après, en grande difficulté, James McCauley.
Je suis toujours frappé par l'adoration française pour ce roman en particulier, La Tâche, qui n'est pas vraiment le roman le plus populaire de Roth aux États-Unis. Mais en gros...
Ça m'étonne pas.
Excusez-moi. Je suis toujours frappé par cette adoration française pour ce roman particulier de Philip Roth, La Tâche. Je pense que c'est un livre formidable. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que Philip Roth a écrit une expérience très, très particulière et qui se trouve aussi d'être mon expérience. Mais en Amérique, il est aimé comme un romancier américain alors qu'il a écrit une certaine expérience très, très particulière. Et nous voyons quelque chose de nous-mêmes dans ses écrits et dans les écrits des autres romanciers qui ont fait la même chose, quelles que soient nos origines. Et pour moi, c'est ça, l'universalisme.
Alors, Pascal Bruckner...
Oui, est-ce que je peux répondre?
Oui, allez-y.
Oui, je voudrais citer à James McCauley deux personnes. La première, c'est Barack Obama. James McCauley se demandait d'où on parle lorsqu'on se dit universaliste. Et Barack Obama dit il n'y a pas une Amérique noire ou une Amérique blanche, il y a les États-Unis d'Amérique. Et dans son autobiographie, il rajoute « Je n'ai jamais eu la possibilité de restreindre mes allégeances sur une base raciale, ni de mesurer ma propre valeur à une aune tribale. » Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il a été élu par l'ensemble des Américains. Et je voulais aussi signaler un petit événement biographique. J'ai eu la chance en 1984 de rencontrer à Paris James Baldwin, avec qui je me suis longuement entretenu pendant toute une après-midi. Et James Baldwin fait partie de ces Américains, afro-américains, qui sont venus se réfugier en France aux côtés de nombreux jazzmen.
Oui, je connais l'histoire, oui.
Jazzmen, avec Richard Wright et d'autres, et tout au long de la discussion, James Baldwin nous a dit que deux choses l'avaient sauvé en France. D'abord que c'était le désintérêt des Français à son égard et à l'égard de son orientation sexuelle, le mot n'existait pas encore à l'époque, car il préférait les hommes, et il a eu cette phrase, qu'il a d'ailleurs écrite ensuite dans un essai, « Les Français m'ont débarrassé des béquilles de la race ». Or, quand on est aux États-Unis, ces béquilles vous suivent comme une malédiction de la naissance à la mort. Aujourd'hui, par exemple, je suis ami avec Thomas William Chatterton, qui est un écrivain afro-américain, qui est venu s'installer en France et qui va probablement y rester, parce qu'il n'en peut plus aux États-Unis d'être ramené à sa couleur de peau et qu'il veut être jugé désormais à ses qualités humaines et à ses qualités littéraires. Je crois que c'est ça l'universalisme à la française et c'est ça qui manque désormais, hélas, aux États-Unis d'Amérique. Et c'est pourquoi je suis très inquiet pour un pays que j'aime.
James McCauley, et ensuite j'aurai une question précise à poser à Pascal Bruckner. James McCauley, vous avez une réponse ?
Non, pas vraiment.
Bon, ben écoutez, alors j'interroge Pascal Bruckner parce que vous faites une grande différence entre l'Amérique et la France, mais cette différence, en même temps, vous la contestez dans votre livre. Vous semblez indiquer qu'il y a aussi une américanisation de la mentalité française, notamment sur la question du féminisme. Je rappelle ce qu'écrivait sur le féminisme français Mona Ozouf en 1995, dans l'un de ses chefs-d'œuvre, Les mots des femmes. Elle disait que la foi américaine, le féminisme américain, son premier article, c'était qu'il y a un nous féminin collectivement identifiable comme victime. Toute femme est une victime, tout homme est un bourreau, tel est l'axiome du néo-féminisme américain. Et il y a aux États-Unis une définition assez élastique, notamment du viol, pour ne plus comporter l'usage de la force ou de la menace, et pour englober toute tentative de séduction, fût-elle réduite à l'insistance verbale, derrière pareille extension se cache l'idée qu'il n'y a pas de relation sexuelle consensuelle. Et elle dit, les femmes françaises, elles, réclament leurs droits, non pas comme femmes, mais comme individu. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les choses ont changé, que le féminisme français, qu'on peut appeler le néo-féminisme, en déclarant une certaine guerre des sexes, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il s'est lui-même américanisé, Pascal Bruckner ?
Oui, il s'est américanisé parce qu'il est devenu un féminisme de procès. Et je pense que d'ailleurs la France et les États-Unis ont beaucoup de points communs. Ils ne s'opposent pas comme le puritanisme à la galanterie, mais comme une autre façon de traiter une même passion démocratique qui est la passion de l'égalité. Et l'Amérique, sur ce plan, prône une sorte de codification maniaque des relations hommes-femmes à travers la figure du juge et de l'avocat, parce que l'Amérique est une démocratie juridique, et codification qui est teintée d'hostilité, vous l'avez dit Alain, et de méfiance vis-à-vis de l'homme, qui est un suspect a priori, alors que la France, sans méconnaître ce souci d'égalité et sans méconnaître l'importance de combattre le viol et les violences contre les femmes, insiste plutôt sur les affinités que sur les divisions. Et il me semble que le génie français, nous le disons tous depuis assez longtemps, c'est le génie de la conversation entre les sexes. Et cette conversation se passe sur tous les plans. La France a inventé le libertinage et la galanterie, deux choses qui sont aujourd'hui fortement réprouvées par les féministes américaines. Songez notamment à l'historienne John Scott qui poursuit la France de ses assiduités mauvaises. Mais beaucoup de féministes françaises qui sont passées par les États-Unis ne cessent de nous expliquer que nous sommes des arriérés, des primitifs et qu'il est temps que nous adoptions les codes américains, notamment les codes de séduction fondés sur l'approbation, sur peut-être l'écriture des relations envisagées, puisque sur certains campus, il faut dire à l'avance ce qu'on va faire avec une femme et le dire oui, vous pouvez rire, mais ma propre fille me l'a raconté, elle est allée elle-même sur les campus.
Qu'est-ce qui se passe ?
Ah non, ça n'est plus James McCauley.
C'est un aboiement.
Alors peut-être c'est le voisin. Non, je sais pas.
Allez, terrible voisin, terrible voisin. Alors que pensez-vous, James McCauley, de ce féminisme-là ?
Non mais c'est très intéressant d'entendre pour moi ces préoccupations concernant à ce que vous et Pascal a appelé l'américanisation, en particulier en termes de féminisme et de politique identitaire. Mais je vous rappelle que tant de penseurs qui influencent ces mouvements au début sont français.
prenons par exemple les études sur ce qu'on appelle Black Studies. Je ne sais pas s'il y a une traduction française, mais l'histoire de la communauté noire dans une perspective transatlantique, etc. Et les penseurs qui ont influencé ces départements, pour la plupart, c'est Fanon, c'est César et c'est le mouvement de négritude. Et donc, on peut dire que la politique américaine ces jours-là, et aussi de temps en temps la politique sexuelle, est française en origine. Et c'est donc, s'il y a une américanisation de la France, il y avait aussi à l'époque une francisation de l'Amérique. Et c'est pas juste une seule direction.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que François Cusset appelle la French Theory, les pensées de Foucault, Derrida, Deleuze ont beaucoup influencé les universitaires américains et une certaine version de ces pensées règne aujourd'hui sur les campus. Il n'empêche, si on en revient au féminisme, je crois que Mona Ozouf se trompe, enfin a été démentie puisqu'elle dit que le féminisme français a résisté à la réfection complète du lexique et de la syntaxe qu'ont entreprise en édictant des codes de correction langagière certaines universités américaines. Il y a bien eu sans doute quelques propositions de réforme, quelques livres écrits sur le genre des mots. Les femmes françaises n'ont contenu pas moins paisiblement à porter le titre de docteur et ou de professeur sans éprouver le besoin de leur ajouter le montre-sexe d'un E superflu. Elle dit aussi que les femmes françaises n'aimeraient pas de voir leur carrière et leur réussite un système de quotas. Tout cela n'est plus vrai aujourd'hui. Donc, peut-être il y a eu... le mouvement n'est-il pas à sens unique? Peut-être il y a eu une part de francisation de la pensée américaine. Mais maintenant, par un retour des choses, on peut parler, en effet, d'une forme d'américanisation, d'un certain militantisme universitaire ou social en France. Pascal Bruckner.
Oui, disons qu'il y a mainmise sur le mouvement féministe français d'une fraction de militantes qui sont souvent passées par les États-Unis et qui veulent imposer non seulement les manières américaines, mais même la langue américaine. Si vous me permettez une petite anecdote un peu risible. En écoutant un matin France Culture, l'émission de Guillaume Herner, j'entends parler de merguez. Et comme j'étais mal réveillé, j'ai cru qu'on parlait de merguez. Et donc je me suis dit, c'est très curieux de parler de merguez sur France Culture un matin à 8h30. Non, on expliquait, c'était Iris Bray, expliquait que le regard masculin, puisque merguez, ça veut dire regard masculin, c'est ce qui différencie les cinéastes hommes des cinéastes femmes. Et bien entendu, si elle avait dit regard masculin, bêtement, elle aurait eu l'air, je ne sais pas, d'une arriérée, parce que parler en français, c'est absurde, mais dire ça en anglais, ça vous donne immédiatement une touche d'élévation et d'altitude que n'ont pas les mots de notre langue. Et donc cette américanisation qui est double, à la fois linguistique et philosophique, elle consiste à dire qu'il n'y a pas de réconciliation possible entre les hommes et les femmes, et qu'au fond, ce qu'il faut remettre en cause, ça n'est pas simplement la domination masculine, c'est l'existence même de l'hétérosexualité. C'est Virginie Despentes a dit « l'hétérosexualité est aussi naturelle que les enclos électriques pour garder les vaches ». Alors là, elle a fait preuve d'humour, c'est une phrase en effet assez drôle, mais c'est donc l'idée qu'il y ait des relations possibles entre les hommes et les femmes est une idée insupportable à un certain nombre de néo-féministes qui voudraient en quelque sorte séparer les deux sexes en deux tribus de part et d'autre d'un fleuve qui n'auraient de relations entre elles que par l'intermédiaire de leurs avocats. Et ça va contre l'idée française de conversation entre les hommes et les femmes et contre l'idée d'un monde commun. Donc c'est là le danger de l'américanisation. Et pour ma part, je trouve les relations amoureuses infiniment plus douces et subtiles en France qu'elles ne le sont souvent aux États-Unis. Et d'ailleurs, quand on lit la littérature nord-américaine, on voit que ces antagonismes entre les genres est un phénomène assez ancien. Et donc je plaide effectivement pour un un maintien de la civilité à la française qui me paraît, là encore, l'avenir des relations entre les hommes et les femmes.
James McCauley, est-ce que vous pensez que les choses vont si mal entre les hommes et les femmes aux États-Unis ?
Pas vraiment. En gros, je pense que c'est aussi une question de génération. Je vous respecte énormément tous les deux, mais vous êtes tous les deux plus âgés que moi. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire, en fait, et j'ai 32 ans. Et permettez-moi de dire que pour cet homme de 32 ans, la cancel culture et la politique identitaire et cette soi-disant guerre contre les sexes n'est pas une menace. J'ai reçu toutes les chances dans la vie et c'est pas quelque chose qui m'inquiète du tout. La question qui m'inquiète, c'est si je pourrais acheter une maison pour ma famille un jour, si j'aurai un emploi dans un an. Si je suis cancelled, ce sera à cause du régime brutal du capitalisme néolibéral aux États-Unis qui semble de trouver de plus en plus d'audience ici en France ces jours-là. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça la vraie américanisation de la France aujourd'hui, pour moi.
Merci beaucoup, James McCauley. Vous venez de nous dire votre version de hockey boomer. En effet, nous sommes plus vieux que vous. Alors, je terminerai en vous citant un Américain, tellement vieux d'ailleurs qu'il est mort, Saul Bellow. Et voici ce qu'il dit de Paris. De Paris. Pourquoi Paris attire-t-il tant l'attention ? Tout simplement parce que c'est la ville sainte de la laïcité. Wie Gott in Frankreich, ainsi les Juifs d'Europe centrale résumaient-ils le parfait bonheur. Cette expression m'a longtemps intrigué et je crois pouvoir maintenant l'interpréter. Dieu serait parfaitement heureux en France parce qu'il n'y serait pas dérangé par les prières, rites, bénédictions et demandes d'interprétation de délicates questions diététiques. Environné d'incroyants, lui aussi pourrait se détendre le soir venu, tout comme des milliers de Parisiens dans leur café préféré. Peu de choses sont plus agréables, plus civilisé qu'une terrasse tranquille au crépuscule. Et je voudrais rappeler que le slogan « Nous sommes en terrasse », c'est celui qui a été spontanément prononcé après les attentats de novembre 2015. En tout cas, James McCauley, merci infiniment pour ce débat. Vous avez admirablement défendu votre cause. Merci aussi Pascal Bruckner. Je rappelle, Pascal Bruckner, le titre de votre livre, « Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc ». Ce livre est publié chez Grasset. La semaine prochaine, l'émission sera consacrée à la parabole du bon samaritain. Mes invités seront Camille Riquier et Pierre Manant. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Aurélie Marsay et de François Connac. À la technique aujourd'hui, Sylvain Latu.